marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30. Les gendarmes et le maintien de l'ordre.
Vous allez entendre une importante déclaration de M. Jules Moch, ministre de l'Intérieur, à propos de la grève des services de sécurité dans les mines.
CRS, gardes républicains, gendarmes et soldats, soyez remerciés pour vos efforts et pour votre sang-froid. Vous avez au début subi le pire des chocs, celui de Français égarés, dressés contre d'autres Français. Assaillis pendant des heures, voyant tomber les vôtres parfois cruellement atteints, vous n'avez pas riposté.
Nous sommes pendant les grèves insurrectionnelles de 47-48. Jules Moch, disait, les communistes ne semblent pas nécessairement faire la différence entre les différentes forces de l'ordre qu'il a commandé et le public, pareillement, sait-il que parmi ces forces de l'ordre, il y a des gendarmes. Parce que dans son esprit, la gendarmerie, c'est d'abord la départementale avec ses 3000 brigades, à qui il fut longtemps recommandé de patrouiller lentement, à pied ou à vélo, dans les campagnes. La fonction d'enquête judiciaire de la gendarmerie est aussi bien connue. Elle représente en effet 40% de son activité. Et puis, il y a dans la gendarmerie des secteurs très spécialisés, dont l'un au moins est identifié par tous, le GIGN. Mais à l'arme de la gendarmerie, car c'est une arme. Il est encore demandé de participer à sa place à la police des foules. C'est le rôle de la gendarmerie mobile. On peut repérer ses préfigurations dès le 19e siècle. Elle naît secrètement pendant la Première Guerre. Elle est éclipsée un moment après la Seconde par les CRS, mais elle demeure essentielle. Ancrée localement, la gendarmerie a toujours été au four et au moulin, à la campagne et à la ville. Le pouvoir central se réserve le droit d'utiliser ses membres sur l'ensemble du territoire dont elle doit assurer la continuité en temps de crise.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
J'ai essayé de prendre le ton qu'il fallait. Jean-Noël Luc, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Alors vous pourriez venir nous parler de l'enfance, des lycées, parce que vous êtes professeur à Paris Sorbonne, d'histoire de l'enseignement, mais vous êtes découvert un grand intérêt, à cause des archives sans doute, pour la gendarmerie, alors que il y a une histoire officielle de la gendarmerie, un service historique de la gendarmerie, un musée de la gendarmerie. Alors pourquoi l'université ?
Oui, un musée de la gendarmerie récent et qui mérite tout à fait la visite. Pourquoi l'université ? Ben, un petit peu quand même par hasard et puis aussi par goût de m'aventurer sur une terre assez inconnue. Hein. Le gendarme, à la fin des années 1990, c'était l'objet historique non identifié.
1791, la maréchaussée, loi de la République, sera dorénavant appelée gendarmerie nationale. Elle se met en place, lentement, mais quand même une croissance assez rapide des effectifs dans le premier 19e siècle. Je vous propose qu'on s'arrête à un moment, les débuts de la monarchie de Juillet. Nous sommes dans le roman de Stendhal, Lucien Leven. Lucien Leven, il est lieutenant au 27e Lancier. Alors, il aime bien parader dans les rues de Nancy, sous les fenêtres des belles dames. Mais alors, quand il est appelé par son colonel à réprimer une grève dans une manufacture...
Rassemblement immédiat. Nous relevons les postes de guet.
Mais que se passe-t-il ? C'est la guerre ?
Oui, presque. Nous quittons Nancy à la demande du sous-préfet pour une ville où les ouvriers d'une fabrique se sont confédérés, comme ils disent. Nous allons mater tout cela. À tout à l'heure, Leven.
Il s'agit de donner à ces ouvriers une leçon qui compte. Et pas de pitié surtout pour ces bourreaux-là.
Ce n'est pas dans le Caucase, ni dans les déserts de Tartarie qu'on trouve les barbares qui menacent la société moderne. C'est dans les faubourgs même de nos villes manufacturières.
Amenez les prisonniers, s'il vous plaît. Ils seront escortés jusqu'à la prison de Nancy.
Bien, mon colonel, bien.
Repoussez-moi ces gens-là.
Prisonniers, faites sortir les prisonniers.
Allez, dans la charrette. Et dépêchez-vous.
Vive la République ! Vive la République ! Vive la République !
Alors voilà, la bande-son du film tiré de Lucien Levenne par Claude Autant-Lara. Alors les militaires, Lucien Levenne le premier, ne sont pas contents de faire ce qu'ils appellent une guerre de trognons de choux. Et les ouvriers, qui plus est, les ouvriers confédérés, les traitent de gendarmes.
Alors ces deux déclarations, on peut dire, sont tout à fait révélatrices de deux faits. D'abord, la part importante des brigades départementales dans le maintien de l'ordre. Ce sont les seules forces, en dehors de l'armée, que l'État peut utiliser. Et elles interviennent avec efficacité. L'un de mes élèves a bien montré que, entre 1800 et 1860, les gendarmes s'imposent lors des troubles. Et ils vont s'imposer en réduisant la violence meurtrière. C'est une stratégie qui fait qu'ils peuvent davantage contenir les attroupements, mais en même temps moins faire usage de leurs
c'est
armes.
C'est la tactique du gendarme, oui. Voilà. Vous employez même le mot stratégie, mais enfin quand même, les chouanneries, les événements du début de la monarchie du Juillet, les années d'émeutes sont nombreuses, 1848.
C'est vrai, mais ce maintien de l'ordre reste sanglant et le jugement de Levenne ne fait jamais qu'illustrer l'opinion à la fois d'une partie de la population et des militaires, selon lequel les gendarmes, c'est un corps sans gloire, puisque c'est un corps qui n'a pas vocation à combattre. Il est simplement bon donc à arrêter les citoyens, ce qui est oublié aussi toutes ces missions militaires, y compris au XIXe siècle, avant les opérations, la mobilisation, pendant les opérations, la police prévôtale, après les opérations, les sorties de guerre. On dirait aujourd'hui aussi le maintien, le rétablissement de la paix.
Oui, mais enfin, aussi la guerre contre ceux qui contestent l'ordre, et par exemple, ceux qui contestent le coup d'État en province, le 2 décembre 1851,
c'est vrai, les
gendarmes revient la responsabilité de la répression.
Tout à fait, les gendarmes ont joué un rôle très important dans la répression de l'opposition républicaine au coup d'État de Napoléon III, d'autant plus qu'on assiste à une sorte d'orchestration, d'instrumentalisation de certains événements dramatiques, où effectivement des gendarmes vont tirer sur des insurgés, et ils vont constituer effectivement le fer de lance de la répression anti-républicaine.
Napoléon III leur sera reconnaissant, qui est établi partout, dans chaque canton, une
oui,
brigade.
Enfin, il hérite des efforts qui commencent sous la Révolution et l'Empire. C'est en 1850 que chaque canton possède une brigade. Autrement dit, à partir de ce moment-là, la gendarmerie, corps militaire, est en même temps la seule force de police nationale jusqu'en 1941, puisque c'est la seule force de l'État implantée sur tout le territoire.
Vous avez dit modération de la violence, Jean-Noël Luc.
Plutôt après, au moment du tournant de la Troisième République.
Oh, ben dites donc. Cet exemple que nous allons prendre se situe au début des années 1900. Alors, on a vu en 1906, par exemple, les gendarmes intervenir dans les églises au moment des inventaires, après la séparation de l'Église et de l'État, quand les églises deviennent propriété collective. Les voilà ici qui interviennent à Draveil en 1900. 8. Le récit que vous allez entendre est celui de Pierre Miquel et ensuite de très vieux témoins des militants communistes d'autrefois.
À Draveil et à Vigneux aussi, près de Villeneuve-Saint-Georges, la grève des sablières empêche pratiquement les entrepreneurs parisiens de travaux publics de travailler. Plus de sable, plus de ciment. Et qu'est-ce que fait Clémenceau ? Il envoie les gendarmes. Dans cette sorte d'affaire, on prévoit le rassemblement dans la région de Villeneuve-Saint-Georges, où ils débarquent par chemin de fer, d'un grand nombre de brigades de gendarmes à cheval, qui viennent parfois de très loin, qui ne sont pas du tout contents des conditions dans lesquelles on les arrache à leurs obligations tranquilles des départements. On considère alors que la gendarmerie à cheval est la meilleure arme possible contre les grévistes. Les gendarmes ont plus de sang-froid, dit-on, que les soldats du contingent, et Clémenceau ne veut plus du tout de bavure. Donc, vive les gendarmes. Les gendarmes prennent position en ligne de bataille devant les sablières. Les gendarmes font usage de leurs armes. Il y a deux morts.
Vous vous rappelez ce que devra être mieux ?
Tu penses ? Le meeting de la 40, ça ne s'oublie pas.
J'allais juste parler quand les gendarmes ont commencé à tirer dans la salle.
De tuer, du blessé. Ça s'est terminé par Villeneuve-Saint-Georges, cette affaire-là. 15 000 hommes de troupes contre 15 000 ouvriers. C'est là que j'ai vu un soldat pleurer de rage et jeter son fusil par terre devant un carassier qui le regardait, les mains vides, comme ça, sans rien dire.
Alors attendez, Clémenceau, ministre de l'Intérieur, pas de bavure. Et là, si je comprends bien, d'abord dans une sablière de morts.
Trois tués.
Et après dans
une
salle. Dans
la sablière de salle, oui, tout à fait.
Vous avez bien fait dans une salle de meeting.
Vous avez bien fait de choisir cet exemple parce qu'on peut s'intéresser à l'histoire de la gendarmerie sans mésestimer les problèmes sociaux, hier comme aujourd'hui. Effectivement, deux morts dans les sablières, mais le troisième, lorsque un gendarme un gendarme qui reconnaît un gréviste qu'il a agressé le matin, le poursuit. Le gréviste se réfugie dans une salle de réunion. Le gendarme le suit et tire à bout portant sur les syndicalistes qui étaient réunis ici. Bon, deux morts, dont une jeune fille de 17 ans.
On ne dit jamais assez les mérites de Clémenceau. Il a imaginé, quand il était ministre de l'Intérieur, dès 1906, une garde mobile dans la gendarmerie. Et ça n'a pu se réaliser,
tout
d'ailleurs sous son nouveau règne, quand il est président du Conseil, en 17, que pendant la Grande
Rejet,
Guerre.
Rejet complet, y compris, alors évidemment, de députés de gauche, hein, une déclaration célèbre, vous voulez une gendarmerie mobile pour assommer les ouvriers. Rejet aussi des députés de droite, qui apprécient beaucoup les gendarmes lorsqu'ils matraquent les ouvriers, les paysans, qui les apprécient moins lorsqu'ils s'opposent à tous les adversaires de la politique de laïcisation de l'État. Mais en revanche, pour être objectif, il faut signaler qu'à cette époque, à l'époque de Draveil, à l'époque d'autres drames sanglants, on voit déjà quand même apparaître ce que j'ai appelé, je maintiens l'expression, un souci de modération de l'usage de la force publique chez Lépine, je vais y revenir à Paris, mais aussi, c'est beaucoup moins connu, chez les départementaux qui abandonnent le modèle prétorien, guerrier, hérité de l'Empire et qui adhère de plus en plus à la notion d'un service public, des départementaux qui veulent s'intégrer dans leur terroir. Et ce que les chansonniers commencent à appeler le brave pendeur, eh bien, que font ces braves pendeurs? Ils transfèrent dans le maintien de l'ordre leurs pratiques de renseignement préventif et de répression graduée.
Oui, et ça, c'est le gendarme de brigade départementale avec sa femme. Vous insistez beaucoup sur le rôle des mariages dans l'intégration, avec son jardin. Son petit ventre qui naît. Oui, mais moi, je voudrais vous faire parler de la gendarmerie mobile telle qu'elle est conçue, toute armée dans la tête de Clémenceau, et qui va peu à peu être officialisée après la guerre de 14.
Tout à fait. La gendarmerie mobile, c'est une longue histoire. Hein. J'ai un de mes élèves qui parle d'une grossesse interminable, de l'enfant qui naît dans le secret. C'est vrai, à la fin de la guerre, des sections mobiles qui sont utilisées pour policer les troupes, c'est d'ailleurs la mission des gendarmes, et qui en fait va être véritablement créée par une sorte de passe-passe. On fait voter au Parlement une loi qui complète la gendarmerie départementale par quelques pelotons d'instruction, mais qui bien sûr ne s'appelle pas gendarmerie mobile. Et une fois, si on peut dire, que le corps est créé, eh bien, modestement, il va grossir, et il va ensuite aboutir, 1926-1927, à devenir une formation autonome, alors qu'on appelle la garde républicaine mobile, d'où parfois les confusions pour le grand public. En fait, on peut dire la gendarmerie mobile, c'est le nom qu'elle prend en 1954.
Mais il y a un décret important en 1930. Donc,
alors, cette gendarmerie mobile, et là je vais encore peut-être vous surprendre parce que mon discours n'est pas forcément politiquement correct, va dès l'origine jouer un rôle important dans cette pacification du maintien de l'ordre, à l'expérience, grâce à ces officiers, dont les réflexions vont aboutir à une instruction en 1930 qui jette en quelque sorte les bases d'un maintien de l'ordre plus modéré, je reprends le terme, en proposant une réponse proportionnée à l'intensité des troubles, une modération fondée sur l'autocontrainte, un refoulement plutôt que l'affrontement. Et d'autre part, ces mobiles, ces officiers voudraient absolument utiliser les gaz. Il y a une formule bien connue dans la revue de la gendarmerie qui est un peu un laboratoire de réflexion. Le gaz fait verser des larmes, mais pas sur des vies humaines. Mais les gouvernements refuseront les gaz.
Le 6 février 1934, il était difficile de jeter des gaz aux manifestants anciens combattants. Mais je ne vais pas vous faire parler de la modération de la gendarmerie le 6 février 1934, mais prendre un autre exemple d'engagement de la garde mobile. Juste après le décret de 1930, nous sommes en 1931. Et figurez-vous qu'en Corse, on lance une chasse aux grands bandits jusqu'à occuper plusieurs villages de l'île.
Dans la région d'Ajaccio, divisée en quatre secteurs, les opérations sont méthodiquement poursuivies. Le but des chefs qui les dirigent est de réduire les bandits à l'impuissance en les isolant complètement. À Palneca, plusieurs d'entre eux ont été arrêtés, amenés aussitôt à la prison d'Ajaccio. Le village de Guitera sert de base aux recherches effectuées dans le maquis, tout proche, où se cache Bornéa. Dans la maison du bandit qu'habitent encore sa mère et sa belle-sœur, on a découvert un véritable arsenal. Le village de Palneca est également occupé. Les gendarmes cantonnent devant la maison de Bartoli, qui, tirant d'une fenêtre, tua deux hommes et terrorisa longtemps la région avant d'être abattu par M. Simonetti. La maison de Spada a été découverte au cours d'une battue. Rien de bien intéressant n'y a été trouvé.
Et nous ne pouvions mieux faire que de chercher à interviewer André Spada, condamné à mort par contumace, roi des bandits d'honneur et maître du maquis. Nous partons donc à sa recherche, parcourant en tous sens le maquis inconnu de nous, nous heurtant à mille difficultés. Nous sentons autour de nous sa présence invisible.
Voici M. Gray, reporter du Pathé Journal. Spada.
Heureux de faire votre connaissance. Moi, le bandit Spada, bandit d'honneur et de vengeance.
Asseyons-nous.
Oh, qui n'a pas entendu, joyeuse et caressante, la voix troublante de Pépé le bandit. C'est un joyeux bandit qui de rien ne s'alarme. Dans le maquis, attendrit les gendarmes, sa voix pleine de charme, les prend et les désarme, et le joyeux bandit s'envole dans la nuit.
Hopé, hopé, on a notre brigadier.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Les gendarmes dans le maintien de l'ordre avec Jean-Noël Luc qui travaille collectivement. Vous avez cité plusieurs fois vos anciens élèves. C'est comme une brigade, quoi.
Écoutez, plutôt une brigade de recherche. Hein,
oui, parce que séminaire de Paris-Sorbonne.
C'est un chantier, oui. Je rends d'ailleurs hommage à tous ces élèves, hein, grâce à qui ce chantier a produit près de 45 ouvrages depuis 2000.
Et l'histoire des gendarmes que vous avez publiée sous forme collective et qui est maintenant en poche aux éditions Nouveau Monde, fait sa plus grande, la plus grande place aux représentations des gendarmes. Il est même question de l'enquête corse du regretté Pétillon.
Effectivement, parce que l'image du gendarme est essentielle. C'est en quelque sorte le reflet du rejet de l'institution, au contraire, de son approbation. Et aucune force de police, il en est même d'ailleurs pour la police nationale, ne néglige cette dimension de représentation. Mais alors, si on revient à la Corse et à Tunor aussi, bon, il est gentil, hein. Enfin, Pépé le bandit, le joyeux bandit, mais enfin, qu'est-ce que sont les bandits corses à cette époque? Enfin, ce sont des bandes qui vivent retranchées dans le maquis, qui vivent du racket, qui terrorisent la population. Les autorités sont totalement impuissantes. 9 gendarmes départementaux sont tués entre 1927 et 1931. Donc, à un moment, le pouvoir central dit ça suffit. Il organise une opération de grande ampleur. Il envoie 650 mobiles, 2 tanks, 11 automitrailleuses, des petits navires de guerre.
Des tanks?
Oui. Oui, 200 arrestations, y compris chez les notables, hein, qui sont proches des hors-la-loi, perquisition, ratissage du maquis, occupation. En 1934, il n'y a plus de bandits, ils sont tués ou arrêtés.
On ne parlera pas de la période de l'occupation, sur laquelle vous revenez souvent dans vos livres. Je voudrais plutôt insister sur ce qui se passe au lendemain de la guerre, où ce sont les CRS qui viennent d'être créés, les compagnies républicaines de sécurité, qui reçoivent le plus d'éclairage. On a l'impression que la gendarmerie mobile, elle en est peut-être Marie, joue un rôle moins important, ou alors peut-être le joue-t-elle hors de la métropole.
C'est effectivement des explications. Désormais, l'État dispose pour la police des foules d'une force duale, hein, la force militaire, les mobiles, et la force civile, les CRS, créée à partir de 1944, à la fois avec le personnel non épuré d'une unité d'intervention créée par Vichy, et puis des FFI. Ensuite, ces CRS vont être épurés, parce qu'il y avait parmi eux des sympathisants communistes, par Jules Moc, et effectivement, ils constituent un autre instrument de maintien de l'ordre, qui ne va pas intervenir dans les mêmes proportions dans le cadre des guerres coloniales. La gendarmerie, pas simplement la mobile, mais la gendarmerie fournit des légions de marche de gardes républicaines mobiles en Indochine, hein, 6000 hommes. La gendarmerie intervient régulièrement aussi en Algérie.
Alors l'Algérie, l'un de vos élèves...
Ah non, c'est pas un de mes élèves, je ne le connais pas. C'est quelqu'un qui a
fait... Un membre d'une brigade voisine.
Sans doute, voilà.
Qui s'appelle Mézières.
Francis Mézières.
A travaillé sur ce qui se passe en Algérie. Bon, les gendarmes sont dans le dispositif à partir de 54-55. Ça se passe bien jusqu'en 1959. Et puis, septembre 59, le général de Gaulle choisit la voie de l'autodétermination, ce qui ne plaît pas nécessairement à une partie de l'armée qui est sur place, non plus qu'à la population européenne de souche, Algérie française. laquelle organise une semaine de barricades en janvier 1960. Nous sommes ici le 24 janvier.
Ici Claude-Paul Bajard qui vous parle d'Alger RTF. Il est 22h45 à peu près et le calme est maintenant revenu sur Alger. Que s'est-il passé en fait aujourd'hui? Eh bien, tout a commencé en fin de matinée quand, répondant à l'appel des leaders nationalistes, des anciens combattants et des élus locaux, quelques milliers de personnes ont essayé de se grouper au forum. Et à 18h, c'était le drame, des coups de feu étaient tirés contre les forces de l'ordre, celles-ci étaient obligées de riposter. On ne sait pas encore le nombre exact des victimes, certains parlent de 7 morts, d'autres de 15 tués, toujours est-il que le nombre des blessés est assez élevé. Mais peu après, vers 20h, M. Paul Delouvrier, délégué général du gouvernement, lançait à son tour un message sur nos antennes.
Malgré les appels publics et les objurgations privées que nous avons multipliées, le commandant en chef et moi, et avec nous tous les chefs militaires, ce que nous avons tout fait pour éviter est arrivé. Le sang a coulé. Comme je l'ai dit et répété, comme le général Challes l'a dit et répété, comme tout le monde l'a entendu et compris, les forces armées, avec une profonde tristesse dans le cœur, et après avoir montré une grande patience pendant une longue journée, ont dû faire leur devoir.
Alors ça, c'est l'interprétation officielle. Si on comprend bien les choses, nous avons côte à côte les paras et les gendarmes.
Pas du tout côte à côte.
Hein. Mais non, si, non. Vous avez entendu non, Paul Delouvrier, il dit qu'il s'entend très bien avec le général Challes.
Voilà, exemple parfait de confusion, de récupération, de brouillard. Ce travail de Francis Mézières qui s'appelle Alger 24 janvier 1960, et je dis, je ne connais pas cet auteur, 1800 pages, un monument époustouflant. Fait une enquête minutieuse. C'est un ancien gendarme, un ancien para, Francis Mézières. Il montre parfaitement les faits, les responsabilités. Les faits, 14 mobiles sont tués par des balles françaises, plus.
Des balles françaises de, des activistes.
Tirées par des activistes de l'Algérie française qui s'opposent à la politique de De Gaulle. Plus 7 autres manifestants.
Alors les paras interviennent?
Non, les paras sont à peu près à 400 mètres. Pendant une demi-heure, ils ne bougent pas. Il y a une complicité totale au niveau de l'état-major des paras, au niveau d'une partie des militaires de l'armée de terre, pour ne pas venir soutenir les mobiles. 14 tués. Étude très intéressante qui montre d'abord le professionnalisme des mobiles, qui montre ensuite l'instrumentalisation, la récupération dans le cadre d'une guerre psychologique qui dure encore aujourd'hui dans une certaine littérature et dans un certain courant d'opinion pour accuser les mobiles de la mort des civils, alors que je vous dis, l'enquête de Mézières est parfaite. Il y a des témoignages qui montrent qu'ils ont été victimes d'une sorte de guet-apens.
Et jusqu'au bout de la guerre d'Algérie, les mobiles incarneront la loyauté, à tel point que le général Salan, quand il sera devenu le chef de l'OAS, ordonnera oralement au moins de tirer
et
sur eux.
Et sur les mobiles, et sur les RS, et sur les CRS, effectivement. Les choses ne sont pas forcément simples pour la gendarmerie, parce qu'au niveau de la départementale, par exemple, il y a une partie des gendarmes qui sont des pieds noirs, mais c'est une arme qui va rester fidèle à la République.
Alors notre parti pris, c'est de ne pas mettre l'accent sur les moments les plus connus. C'est pour ça que vous avez voulu que nous parlions de janvier 60. Et moi, je ne vais pas vous faire parler de vos participations multiples à Poitiers au mouvement étudiant en 1968.
Vous m'aviez promis que vous ne le diriez pas.
Mais vous dites que vous reculiez, vous, en mai 68.
Bah, bah évidemment, enfin, c'était la culture de l'étudiant contestataire de province. Quand il voyait les flics, qu'est-ce qu'il faisait? Il courait.
Mais la présidente de Radio France dit que la grande spécialité, la grande supériorité de la radio, elle a dit ça dans le JDD, c'était de ne pas avoir d'image. Si on vous voyait à l'image, on vous verrait reculer et avancer, d'ailleurs, dans un dispositif de maintien de l'ordre impressionnant. Non, je voulais insister sur la conséquence pour la gendarmerie de 1968, c'est-à-dire la création du Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie à Saint-Astier, Dordogne. Ici, une visite plus tard.
Cocktails Molotov et barricades de voitures, manifestants déchaînés et grenades lacrymogènes, jeu de rôle grandeur nature pour les gendarmes, histoire de se former sur le terrain aux techniques du maintien de l'ordre.
Le maintien de l'ordre français, c'est beaucoup de stoïcisme de la part des unités. Et actuellement, on est en train de les faire travailler dans le maintien de l'ordre, la phase la plus dure qui puisse exister.
Unique en Europe, ce village d'entraînement. Toute la semaine, il a accueilli en stage 17 officiers, policiers et gendarmes issus de 7 pays de l'Union européenne. L'occasion de partager les savoir-faire, d'échanger les expériences. La semaine prochaine, l'école de Saint-Astier recevra d'autres stagiaires issus du Maghreb et des pays de l'Est. Comme quoi, ce village, où des gendarmes affrontent d'autres gendarmes, s'affirme au fil des ans comme un site pilote au plan européen et même bien au-delà.
Et on attend donc ce jour-là des visiteurs du Maghreb pour prendre des leçons à Saint-Astier. On pense tout d'un coup à Madame Alliot-Marie, alors ministre des Affaires étrangères, qui de retour de vacances de Tunisie proposait qu'on envoie des gendarmes français à Tunis au moment du début de la révolution du printemps arabe.
Enfin, je ne pense pas quand même que la doctrine qui émerge dans les années 30 et que la gendarmerie mobile va ensuite peaufiner corresponde tout à fait à la conception du maintien de l'ordre dans les régimes que vous évoquez. Alors Saint-Astier, c'est effectivement emblématique parce que c'est l'une des retombées, sans doute peut-être la plus significative des événements de 68. Qu'est-ce qui se passe en 68 et qu'est-ce qu'ont montré les travaux de mes élèves ? Eh bien que les agents de l'ordre sont trop peu nombreux, insuffisamment formés, avec même des faiblesses au niveau de l'entraînement physique, mal équipé, ce qu'on fait du maintien de l'ordre avec une cravate, épuisé et dirigé par des autorités civiles dépassées. Alors tous les témoignages attestent que la mobile tient mieux que les CRS. Mais si elle tient, sa tactique quand même décroche face aux barricades et surtout l'intendance ne suit pas et les équipements ne sont pas à la hauteur. D'où une vaste réflexion à l'issue de 68 pour imaginer de nouveaux modes d'action, de nouveaux équipements, un bouclier, lance-grenade, la tenue de type combinaison, les véhicules blindés à roues, approfondir la réflexion sur l'articulation entre la pédagogie de la force et de la retenue, et surtout, valoriser la formation initiale et continue, d'où la création de ce centre.
Dites-moi, Jean-Noël Luc, la gendarmerie s'intéresse à son histoire, notamment grâce à vous. Il s'étonne, les gendarmes, que vous ne soyez pas fils de gendarme, que vous ayez choisi de vous consacrer en partie à ce sujet. Et est-ce que l'examen de l'histoire, ça fait partie d'une plus grande liberté d'expression qu'auraient aujourd'hui les gendarmes ? Vous savez, le général de Villiers, on l'entend beaucoup ces temps-ci, nous dit il y a au fond plus de liberté d'expression dans l'armée que dans l'entreprise. C'est ce qu'il soutient. Il y a plus de liberté d'expression dans la gendarmerie que dans l'armée.
Écoutez, j'aurais certainement pas la prétention d'avoir une connaissance suffisante de la gendarmerie d'aujourd'hui pour apprécier sa liberté d'expression. Ce que je peux dire, c'est que je travaille sur les gendarmes et parfois avec les gendarmes depuis 20 ans et que je n'ai jamais connu de censure. J'ai fait travailler et publier dans la revue de la gendarmerie sur le rôle de l'arme pendant la Commune, qui n'est pas du tout glorieux. J'ai fait travailler et publier sur le rôle de la gendarmerie pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai organisé plusieurs colloques sans jamais aucun problème.
Mais vous faites semblant de ne pas connaître la situation de la gendarmerie aujourd'hui et en même temps, dans votre livre, Histoire des gendarmes, vous dites jamais, peut-être, l'arme n'a connu une pareille transformation qu'aujourd'hui.
C'est évident, ça c'est l'impression de l'historien qui prend un petit peu de recul. C'est un aggiornamento total, enfin, depuis les mouvements de contestation, depuis la rénovation lancée.
Il y a eu des mouvements de contestation dans la gendarmerie, il y a beaucoup de turbulences autour des années 2000.
Et puis il y a eu surtout, alors il y a à la fois, si vous voulez, un mouvement de base, mais qui est celui aussi des gendarmes de la Belle Époque. Hein. Ce sont les gendarmes qui font eux-mêmes la gendarmerie. Simplement, ce que l'on voit depuis la fin des années 90, c'est le relais pris par la direction générale, le général Favier, le général Lisuré, qui est actuellement en fonction. Effectivement, on pourrait dire, c'est une maison qui bouge. Mais je voudrais revenir à Saint-Astier. Parce que c'est aussi significatif ce souci de la formation initiale et continue, ce souci constant, même si le mot peut toujours choquer, de s'inscrire dans une pacification tendancielle du maintien de l'ordre. Je voudrais vous donner quand même deux chiffres, parce qu'on entend un peu tout et son contraire.
Si l'on prend le
nombre de tués pour des opérations de maintien de l'ordre, à cause de personnes de maintien de l'ordre, sur 1900-1920, 46, 1970-2000, 7.
Merci à vous, Jean-Noël Leluc, avec vos élèves, chez Nouveau Monde et au PUPS, plusieurs publications collectives sur la gendarmerie. L'émission était préparée par Frédéric Martin, Franck Olivar et Linka Negulesco, à la technique Michel Bézikian, à la réalisation Valérie Aestaraï.